France Culture.
Malutka.
Petit chéri.
Schlichner.
Oh, quel joli petit oisillon. Oh, qu'il est beau. J'avais plein de rêves. Je voulais faire une école de théâtre, devenir actrice. Ou alors aller travailler dans un jardin zoologique, pourquoi pas. Mais en fait, il y avait toujours, quelque part au fond de moi, cet appel de la forêt. La conviction que je ne vivrais pas en ville. Je ne voulais ni trottoir, ni asphalte. Rien de tout ça. Je voulais la forêt. Il s'est trouvé que je suis devenue une spécialiste de la forêt. Avec tout ce qu'il faut comme diplôme de sciences forestières.
Simona Cossack, l'esprit de la forêt. Simonetta Greggio et Julie Beressi. Première partie, Dambialoviesa, dernière forêt primaire d'Europe.
Ça ressemble à un conte de fées. Simona est arrivée à Bialoviesa avec une petite valise.
Natalia Korinka-Grutz, réalisatrice.
C'était une jeune fille délicate et fragile. Mais elle avait quand même décidé de travailler dans un milieu un peu rude, à l'Institut de recherche sur les mammifères de Bialoviesa. Au début, on l'a logée dans un hôtel avec d'autres scientifiques. Mais elle voulait vivre dans la forêt. Ce premier hiver, par une belle nuit enneigée, un garde forestier l'a invité à faire quelque chose de particulier. À la lumière de torches, ils sont partis dans un traîneau et ils se sont enfoncés dans la forêt, vers la réserve. Il l'a emmené voir une maison forestière à 3 km du village de Bialoviesa, en plein cœur des bois. Il lui a dit qu'elle pourrait, pourquoi pas, habiter là. Cette maison était abandonnée. Simona en est tombée amoureuse au premier coup d'œil. Elle était émerveillée par les lieux. Elle est entrée dans la maison et elle a dit que c'était là qu'elle voulait vivre.
La première image que j'ai vue d'elle, c'est une photo d'elle qui se balade dans la forêt enneigée.
Irina Teodorescu, écrivaine.
C'est tout blanc et on voit Simona qui est suivie par tout un troupeau de chevreuils. Et ça fait un peu Blanche-Neige, sauf que Simona était blonde. Elle a des tresses très longues.
Simona, c'est une scientifique bourgeoise décoiffée.
Laura Pozzi, illustratrice.
Avec ses cheveux rouges. Au milieu de la forêt, qui, au fur et à mesure dans les temps, ils deviennent de plus en plus décoiffés, qui se voit qu'il est vraiment impliqué avec son corps dans la forêt, dans la connaissance et dans la préservation de la forêt, dans la protection de la forêt. Aussi avec ses yeux, ils ne sont pas doux, hein, sont des yeux qui peuvent piquer. Et après, les maigres, mais puissantes, pleins de, d'énergie, voilà, à dépenser pour la forêt.
Spouchtant.
Il y a quelque chose d'étrange dans cette grande forêt. Et pourtant, j'en ai vu des forêts.
Bozena Valencik, réalisatrice animalière.
Ici, on se sent incroyablement en sécurité. Comme dans une maison refermée sur sa chaleur. Un véritable refuge. Mais dès qu'on en sort, dès qu'on s'aventure dehors, vient ce léger vertige. Cette peur de l'espace ouvert. Simona m'a dit un jour, alors que mon mari, Yann et moi, ne nous étions pas encore installés définitivement à Bialoviesa, « Tu verras, tu te sentiras ici comme un beignet dans le beurre. » C'était sa manière de dire « Tu seras parfaitement à ta place. » Et tu ne voudras jamais en repartir. Cette forêt, c'est comme si elle irradiait. Nous étions tout le temps fourrés dedans. Nous étions baignés par elle. Nous sentions en nous sa magie, sa présence. On ne parlait jamais à voix haute quand on allait y marcher. On murmurait.
Elle parle aux corbeaux, apprivoise les élans, dort avec les lynx et les sangliers. Elle défend les arbres contre la hache et le mensonge. Simona Cossack, née en 1943, morte en 2007, biologiste, zoopsychologue, a choisi de vivre au cœur de la forêt de Bialoviesa. Elle va devenir l'esprit même de la forêt, celle qui veille, qui relie, qui rappelle aux hommes que le vivant ici précède et peut survivre à tout. Ça s'écrit Bialoviesa, ça se prononce Białowieża, dernière grande forêt primaire d'Europe, il n'en reste que des lambeaux ailleurs, en Roumanie notamment. Elle est la relique vivante de celle qui recouvrait jadis le continent tout entier. S'étendant sur 1500 km², l'équivalent de 210 000 terrains de football, s'est déployant à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Elle est restée presque intacte depuis la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Ici, les sols n'ont jamais été labourés. Les arbres tombent et renaissent d'eux-mêmes. La mousse ensevelit les temps et l'histoire. Des rivières la traversent, des bisons et des loups y laissent leurs empreintes sur la neige, au long des hivers sans fin. Aujourd'hui, Białowieża résiste, encore un peu. Jusqu'à quand ? Forêt refuge, forêt frontière, elle abrite chercheurs, naturalistes, poètes, tous venus écouter son murmure. Et parfois, croiser la trace de Simona Kossak.
Je suis arrivée de nuit, il pleuvait. J'avais loué une voiture, donc j'étais en voiture sur une petite route qui mène dans le village, qui porte le même nom que la forêt. C'était à peu près, c'était début octobre. Il y avait beaucoup d'arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles ou alors qui commençaient à avoir leurs feuilles dorées. Et il y avait énormément de grenouilles. Donc je voyais ces feuillages qui couvraient la route, comme une coupole, quoi. Et les grenouilles que j'essayais de ne pas écraser, mais il y en avait mais énormément. Donc une image de nuit avec les phares de la voiture. Et on voyait comme un tunnel d'arbres pour s'enfoncer dans la forêt. Et au départ, on se sent pris quand on arrive dans cette forêt en particulier. Alors je ne connais pas d'autres forêts primaires. Mais au départ, on se sent pris dans les bras et bercé. C'est vraiment une forêt très, très aimable, très, très aimante. Et finalement, on devient partie de cette forêt. Voilà, ça prend un peu de temps. Et puis après, soudainement, on se rend compte, par les rêves, par exemple, on se rend compte qu'on est en train de devenir partie de la forêt et que tout en soi résonne avec la forêt.
Pour moi, la forêt est le lieu primordial le plus important de notre vieux continent, de l'Europe tout entière.
Jan Walenczyk, documentariste animalier.
Pour le dire plus poétiquement, c'est un miracle de la vie, un miracle incroyable qui dure depuis des milliers d'années. Il est important de rappeler que cette forêt n'a pas été plantée par la main de l'homme. Elle est primitive. Elle a survécu par ses propres moyens, ne comptant que sur ses forces. Bien sûr, la main de l'homme en a exploité et détruit la plus grande partie. Mais ce qui en reste, la partie protégée, ressemble à ce qu'était autrefois la plaine européenne. Une immense forêt sans confins, s'étendant de la Baltique à la Méditerranée, de l'Atlantique à l'Oural.
La forêt de Białowieża est sans doute la réserve la plus célèbre de Pologne. Une forêt si ancienne, la plus ancienne d'Europe. Enfant, nous y allions en excursion scolaire. Nous, les Polonais, nous la connaissons donc plutôt bien. Mais sans doute personne ne la connaît comme Simona Kossak, ni comme ceux qui y vivent aujourd'hui. C'est un lieu magnifique, sauvage, qui a su préserver les traits de la forêt originelle. Une réserve unique, où les animaux vivent en paix. C'est au cœur de la forêt que l'être humain peut mesurer à quel point le monde naturel qui l'entoure est essentiel, vital en vérité. Comme le disait Simona, nous devrions apprendre à coexister avec le vivant. Je crois que pour l'Europe tout entière, et même pour le monde, ce lieu est un trésor, un héritage. Il n'a pas seulement de l'importance pour la Pologne, il compte pour chaque être humain sur cette terre.
«
En arrivant dans la forêt de Biaovieja, c'était vraiment un souhait de ma part de partir avec des naturalistes pour avoir vraiment la partie beaucoup plus scientifique, environnementale de cette forêt.
Andrea Olga Mantovani, photographe.
Donc c'est une forêt de plaine, nous ne sommes pas sur une forêt de montagne. Il faut imaginer que c'est très simple de progresser dans la forêt de Biaovieja parce que tout est plat. Et quand on rentre progressivement dans cette forêt, qui se structure d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que le centre de la forêt, c'est une stricte réserve. On ne peut pas y rentrer tout seul, on doit être accompagné d'un guide. La zone autour de la stricte réserve sont des zones de protection, zone Natura 2000, zone de protection pour les oiseaux. Là, nous avons le droit de nous déplacer. Nous n'avons pas le droit de préver quelque chose sur le sol. Nous avons le droit totalement de nous déplacer. Donc, quand on rentre progressivement dans cette forêt, on peut dire que visuellement, on enchaîne des décors, des complexes forestiers complètement différents. On peut passer d'une zone de marécage à une zone tout d'un coup d'aulnay, et ensuite on peut arriver sur une grande clairière avec un chêne. C'est-à-dire que, contrairement à visuellement ce dont j'avais l'habitude dans les forêts françaises, dans mes forêts européennes, d'avoir une forêt plutôt homogène en termes d'espèces ou en termes de sous-bois, tout à coup, j'enchaînais un peu comme un film de science-fiction, j'ai envie de dire, de parcelle des fois en parcelle, et très rapidement, le paysage changeait. Et c'était des paysages que je n'avais encore jamais vus dans leur complexité et richesse biologique.
Après l'avoir visité, j'étais frappée vraiment pour sa beauté. Quand j'ai dépassé les portails d'entrée, il y a même toute une chorégraphie pour visiter la partie de la réserve, voilà, la partie primaire. J'étais vraiment, j'ai pris une pleine tranche, une vague verte. Et après, à fur et à mesure qu'on avançait dans la visite, j'avais l'impression d'être dans une galerie d'art et de voir des sculptures parce qu'il y avait des troncs d'arbres pour tortiller. Et après, et ça, je pense que c'est la chose qui plus ça m'a touchée, et ça m'a lié à tout jamais à la forêt, c'est que j'avais l'impression de reconnaître les lieux, du coup d'y être déjà été. Et là, comme aussi le disent les scientifiques, j'ai compris que la forêt primaire, c'est une fenêtre sur l'histoire, et comme si elle faisait déjà partie de mon histoire, comme si je reconnais les lieux. Quand on sent un parfum, un goût, il nous amène en arrière dans notre histoire, dans l'enfance. Du coup, que ça m'a fait dire, ça, c'est pas seulement une forêt. C'est quelque chose de plus.
Il faut revenir ici à la notion de primordialité. Normalement, nous utilisons les mots primitif, ancien, naturel, sauvage. Autant d'équivalents de primordialité. Mais qu'est-ce donc que la primordialité ? Primordial signifie simplement sans intervention humaine. On parle de quelque chose créé par les forces mêmes de la nature. C'est ainsi qu'est née la forêt après la dernière glaciation. La glace ne l'a pas recouverte, mais le froid a façonné le climat et la végétation. Au commencement, ce n'était qu'une toundra, semblable à celle de Scandinavie ou de Sibérie. Ce n'est qu'au cours des périodes successives de réchauffement que les forêts de feuillus ont commencé à apparaître. Des millénaires se sont écoulés avant que la forêt prenne l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Pour moi, cette primordialité, cette organisation et cette structure propre à la forêt originelle ont toujours été liées aux forces de la nature. Le fait est que les arbres poussent d'eux-mêmes, grandissent d'eux-mêmes, sans aucune aide humaine modelée par les éléments, par les tempêtes, le gel, la neige, la pluie, les cataclysmes, les incendies.
Mechanizmu, w jaki sposób funkcjonuje las pierwotny,
Si l'on veut comprendre le fonctionnement d'une forêt originelle, il vaut mieux la laisser en paix et observer son antagonique. La forêt d'exploitation, où les arbres sont plantés en rangée, comme des choux. Là, tout est entretenu, taillé, dirigé. Les arbres poussent, mais ne peuvent jamais atteindre leur âge naturel.
Ale one nie są w stanie dożyć do swojego naturalnego wieku. One, takiego gościa jak ja,
si j'avais été un arbre, on m'aurait coupé à 40 ans, plus jeune peut-être, à l'âge du bois parfait. Mais en fait, ni cet arbre ni moi-même n'aurions eu la chance de donner naissance à autre chose, à une régénération.
Alors, Białowieża est arrivée dans ma vie en 2016. Par surprise, j'étais dans les bureaux du Mont pour présenter un portfolio sur une des forêts du Chiapas, au Mexique. Et c'est un iconographe qui m'a fait découvrir la forêt de Białowieża en me disant « Andrea, toi qui adores les forêts, sais-tu ce qui se passe en ce moment dans la forêt de Białowieża en Pologne ?» Je connaissais pas cette forêt. Il m'a montré 3, 4, 5 photographies sur son ordinateur. Et mon cœur s'est emballé et je suis sortie de cet entretien avec la volonté de partir la semaine suivante pour cette forêt, menacée de déforestation par le gouvernement polonais qui y menait une politique massive de coupe. Donc sur place, était en train de se créer une ZAD, une zone à défendre, d'activistes et de citoyens, de scientifiques et également de biologistes polonais qui s'opposaient à ces coupes massives. Je pensais partir pour 2 semaines et je suis restée y vivre 8 mois. J'étais face à vraiment une forme de paradoxe et on pourrait même dire de schizophrénie parfois, parce que je pouvais passer d'un moment qui est idyllique, où on entend le bruit des branches avec leur craquement et le bruit des oiseaux, à passer au bruit des coupes et des coupes rases en forêt et les arbres crient lorsqu'ils sont coupés. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose à l'oreille humaine qui est très très difficile à entendre. Et il y avait vraiment cette forme de schizophrénie. On passait du jardin d'Éden à l'inframundo, comme on dit au Mexique, aux enfers. Lorsque les coupes se sont arrêtées en février 2017, lorsque les activistes ont gagné devant la Cour de justice européenne, les camions, les tracteurs sont sortis de la forêt et revenu le silence. Et le silence de la forêt, en réalité, s'est rempli de sons et de bruits et de discussions.
Wcale nie jest tak, że w puszczy natychmiast zobaczy się wyłącznie duże zwierzęta.
On pourrait croire qu'en entrant dans la forêt, on tombe aussitôt sur de grands animaux, des bisons par exemple. Przetrwał. Mais ce n'est pas vrai.
Swoją drogą, dzięki
Pardon,
opiece
je vais
ludzi.
Faire un pas de côté, car il faut reconnaître quand même que l'espèce la plus emblématique de la forêt, le bison justement, n'a survécu que grâce à l'homme.
Można zobaczyć jelenie, ale najłatwiej je zobaczyć w
On peut dire, le cas échéant, qu'au moins avec le bison, l'être humain a réussi à sauver une espèce qui aurait disparu autrement.
Do dyspozycji widzów. To nie jest tak, jak na przykład widziałem we francuskich zwierzęcach.
Je reprends donc. Bien sûr, on peut observer, si l'on veut, des bisons ou des cerfs. Car ils se trouvent dans des enclos spécialement aménagés à cet effet, pour permettre au public de les approcher, comme dans certains parcs animaliers français, où de magnifiques troupeaux de cerfs semblent posés pour la caméra. Mais si l'on veut réellement voir des animaux sauvages, on doit le mériter. Il faut parcourir la forêt à pied, se fondre en elle, apprendre à la lire, à s'y accorder. Alors seulement on découvre les endroits où les animaux apparaissent, où ils se rassemblent, s'accouplent et se nourrissent.
To się dzieje najczęściej o świcie, trzeba wstawać wcześniej.
Cela se produit le plus souvent à l'aube. Il faut donc se lever tôt. Mais la première clé pour vraiment voir, c'est un changement qui doit se faire au plus profond de nous-mêmes. Nous devons essayer de penser un peu comme la forêt, comme ses habitants. Essayer de la comprendre. La forêt n'est pas un parc zoologique où l'on vient choisir les animaux qu'on veut voir. Non. C'est nous les intrus, les invités dans la maison. Et c'est cela, le miracle du vivant. Soudain, dans le sol, la litière, les mousses, les buissons, le sous-bois, sur les troncs et jusque dans les cimes des arbres, partout. La vie s'éveille et respire.
Wszędzie kwitnie życie.
Niestety przyszedł czas bardzo niebezpieczny dla naszej puszczy.
Malheureusement, nous traversons des temps sombres. Des terribles menaces planent sur notre forêt, coupée en deux par une longue clôture, un mur en fait, qui empêche désormais les animaux de circuler et en disperse les meutes, les hardes, les groupes. Les animaux sont effrayés par l'armée qui patrouille sans relâche le long de la frontière pour contrôler les réfugiés. Cette foule en marche vers l'ouest à travers la Pologne. Depuis notre fenêtre, Yann et moi voyons autrefois des familles de cerfs, de bisons, d'élans traverser la réserve. Aujourd'hui, on n'aperçoit que quelques renards. Le soir, à la tombée du jour, les biches sortent encore pour se nourrir. Mais les grands troupeaux ont disparu. Ils ont été dispersés par les soldats, les réfugiés et par les drones que l'armée utilise pour surveiller la frontière. C'est une grande perte. Tout change. Tout se dérègle dès que l'homme met la main sur la forêt.
La première image, elle n'est pas très positive. La première image que j'en ai eue, c'est une image aux informations.
Caroline Hino. Écrivaine.
Au moment de la crise migratoire orchestrée par le régime biélorusse à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, et c'était à l'été, fin de l'été 2021, où j'ai vu des personnes venant du Moyen-Orient, d'Afrique, qui espéraient passer la frontière et qui se retrouvaient coincées dans cette forêt, emprisonnées, piégées. Et cette image m'a absolument bouleversée. Et voilà, il y a eu comme une espèce de télescopage entre cette image médiatique, on va dire, et géopolitique, et la figure de l'arbre qui m'intéressait d'un point de vue plus poétique et écologique, on va dire. Et je me suis dit qu'il y avait là quelque chose vraiment d'intéressant parce que on était à la croisée, sans faire de mauvais jeu de mots, à la croisée de nombreux enjeux. Parce que cette forêt, il faut aussi la penser en termes d'écologie, en termes de sanctuaire du vivant qu'elle est. Quelque chose qui nous dépasse, qui est majestueux, qui est magnifique. Et puis, il y a cet enjeu géopolitique qui venait le rencontrer. Et pour moi, il y avait tout de suite la question de l'écriture. Comment dire ce qui avait lieu dans cette forêt et comment écrire la pluralité des visages, la diversité, le caractère protéiforme de cette forêt. C'est ça qui a surgi à ce moment-là. La forêt, pour moi, est un labyrinthe. D'abord, parce que ce qui est intéressant dans une forêt, c'est qu'on n'y voit pas l'horizon. C'est un peu le principe. Alors, on peut y trouver des clairières, ce qui est intéressant. D'ailleurs, aussi d'un point de vue symbolique, on peut y trouver des respirations. Mais la forêt, par essence, se traverse. On y marche, on y est en mouvement. On peut s'arrêter, bien sûr, être en contemplation. Mais ce qui, moi, m'a intéressé, c'est le fait aussi que c'est un lieu où on peut se perdre, un lieu des carrefours, un lieu des choix, un lieu qui peut être aussi oppressant que libérateur. Enfin, c'était vraiment la dualité, plus que la dualité, d'ailleurs. La complexité d'un tel lieu qui peut à la fois être un piège, même un cimetière pour les personnes migrantes qui s'y sont retrouvées enfermées, mais ça peut aussi être un lieu qui cache, un lieu qui protège. D'ailleurs, ça a été le cas de résistants polonais, par exemple, pendant la guerre. C'est le lieu des marginaux, c'est le lieu de l'inconscient aussi. Et puis, ça draine aussi tout un héritage littéraire. C'est la forêt du mythe, la forêt du conte. Donc, je trouve que c'est un espace de transformation. On la traverse autant qu'elle nous traverse, en fait. C'était ça aussi qui m'intéressait. C'est que j'envisageais un peu l'existence comme une forêt dans laquelle on doit essayer de trouver un chemin, des chemins dans lesquels il faut essayer de s'orienter ou se réorienter en permanence, ce qui n'est pas toujours évident. Et je pense que la forêt peut parfois nous être hostile, mais aussi parfois nous aider.
My jesteśmy za tym, żeby nasz kraj był chroniony.
Bien sûr, ma femme Bodzena et moi sommes d'accord pour que notre pays soit protégé, pour que tous les pays de l'Union européenne le soient. Nous sommes également favorables à la surveillance de cette frontière. Mais ce qui nous attriste, c'est que peu de gens parlent de la protection de cette forêt, de la nature, dans le contexte de ces frontières. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de respect pour notre forêt actuellement. Ceux qui défendent la frontière, ceux qui veillent sur nous, ne respectent pas notre habitat, n'ont aucun égard, aucune considération pour tout ceci. Un peu plus d'attention pour notre situation témoignerait de la maturité de notre société, de notre niveau de civilisation, de notre culture. Cela montrerait que l'être humain comprend, que nous reconnaissons la nature pour ce qu'elle est, tout simplement, un espace vivant, existant, qui a ses lois.
A ona po prostu jest, bo jest, no to fajnie. To
je, mais non, on préfère élargir les routes, ravager et détruire au passage des réserves naturelles.
No tak nie można.
On ne peut pas agir ainsi.
Tylko utyskiwać, bo jeszcze raz mówię,
ma parole n'est pas à charge, car je le redis, la défense de la frontière est essentielle, tout comme est essentielle la protection de la vie des habitants d'ici. Non seulement de la vie des Polonais, mais de tous les Européens. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue la forêt qui, depuis des siècles, a été préservée, même par les rois de Pologne et les tsars de Russie. Ne détournons pas notre regard de ce lieu primordial, le lieu primordial par excellence, où cette vie qui est là depuis l'origine de notre monde a encore une chance, la possibilité d'une régénération.
C'était Simona Kosak, L'esprit de la forêt. Première partie, dans Białowieża, dernière forêt primaire d'Europe. Avec Laura Pozzi, Andrea Olga Mantovani, Irina Teodorescu, Caroline Hino, Jan Valencik, Bozena Valencik, Natalia Korinka Grutz. Traduction, Marcola Sularczyk. Avec les voix de Anne Stephens, Sonia Masson et Alexandre Duren. Prise de son, Florent Layani, Lucas Desrodes et Nicolas Despagraf. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Musique, J.P. Cremonini. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Simonetta Greggio, réalisé par Julie Beressi. Tout de suite, retrouvez le deuxième épisode, Simona Kosak et son combat pour les vivants. Loups et chauves-souris, arbres, cours d'eau, vers de terre et oiseaux.